Ce soir j'ai le cœur gros comme un tango qui pleure, pleure sur un vieux phoneau. Je traîne, traîne comme une fin de balle qui danse, danse, tourne mal. Ce soir j'ai le cœur gros comme un bandeau qui tangue, tangue sur un vieux radeau.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Je vais vous faire entendre dans l'émission d'aujourd'hui le journaliste Sylvain Sipel. Sylvain Sipel est un journaliste qui a été correspondant aux États-Unis du journal Le Monde de 1998 à 2013. Il a été également le rédacteur du Courrier international et depuis février 2024, il a rejoint le site Orient 21, que vous connaissez bien, ce site Orient 21 qui a été créé par l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, Alain Grèche. Sylvain Sipel est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur Israël. L'un d'eux est intitulé « Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse ». Ce livre a été publié aux éditions de La Découverte. Il y a un autre livre qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs », qui a été publié à La Découverte aussi en 2020 et qui vient d'être réédité avec une préface qui concerne la guerre à Gaza. Sylvain Sipel a été interrogé le 5 avril 2024 sur la chaîne d'info Mizane. Mizane est un site de réflexion, d'information, d'analyse et d'éclairage consacré à l'islam et au monde musulman. Il a été interviewé pour parler des réseaux d'influence pro-israéliens aux États-Unis et en France. On pense aujourd'hui que seuls les États-Unis pourront arrêter un jour la guerre d'Israël à Gaza. La parole de Sylvain Sipel, connaisseur de la politique des États-Unis dans son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, peut donc nous éclairer. Et j'ai choisi de vous faire entendre son entretien avec un journaliste du site CISAM.
Dans cet entretien, nous allons tenter d'analyser les leviers de pouvoir du lobby pro-israélien aux États-Unis et comprendre les différents points de vue que porte la communauté juive sur cet État, sur l'État israélien.
D'accord.
Alors, premier constat. Le soutien des États-Unis envers Israël est sans faille, Il se matérialise à travers la fourniture d'armes, une assistance logistique, un appui politique, des vétos répétés pour cautionner les massacres à Gaza. Sylvain Sipel, quelles sont les raisons qui expliquent ce soutien inconditionnel des États-Unis derrière Israël ?
Eh bien, je pense que, d'abord, je suis le premier étonné, parce que lors de la dernière guerre, en 21, Biden, qui venait d'être élu, au bout de 3 semaines, il a dit aux Israéliens, c'est terminé. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Et les Israéliens, à l'époque, quand il a dit c'est fini, ils ont obtempéré immédiatement. En 2 jours, c'était terminé. Et dans le cas de la guerre actuelle, l'attitude américaine a été très différente. C'est-à-dire qu'elle a consisté en un soutien absolu de la Maison-Blanche à toutes les initiatives. Je veux rappeler qu'au début de la guerre, les Israéliens, quand ils ont commencé à procéder à l'évacuation, ont cherché à obtenir des Américains un soutien à une expulsion de la population palestinienne. Cela n'a pas fonctionné parce que l'Égypte du général Sisi a refusé d'accueillir les Palestiniens. Malgré des promesses de nombreux milliards de dollars, le président Sisi a refusé. Et donc, cette option s'est arrêtée, pour le moment en tout cas. Mais je rappelle quand même que Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, a donné la main à cette option. Il en a discuté avec Sisi. C'est dire jusqu'où le soutien américain a pu aller cette fois-ci. Si vous m'interrogez pour me demander pourquoi ça change, pourquoi ça changerait, ou pourquoi ça ne change pas, je vais être très honnête, je n'ai pas d'explication définitive et très claire sur cette opération, sur pourquoi cette fois-ci les Américains, dans des conditions, dans une guerre immensément plus dramatique que celle de 2021, les Américains ont proposé un soutien sans faille. Ils le font, en tout cas, l'administration Biden le fait malgré, on y viendra peut-être plus tard, une hostilité notoire de la jeunesse démocrate. Et pas seulement de la jeunesse démocrate, mais aussi, par exemple, de nombreux diplomates du State Department, c'est-à-dire du ministère américain des Affaires étrangères. Alors maintenant, on peut spéculer. Il y a deux aspects fondamentaux qui expliquent le soutien américain inconditionnel à Israël. Il y en a un auquel on pense peu, mais qui me semble très important. Les Américains ont d'autres alliés au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Mais il y a une grande différence entre Israël et les autres. Dans les pays arabes qui sont autour d'Israël, ce sont les régimes qui sont les alliés des États-Unis. Dans le cas d'Israël, c'est pas seulement le régime. C'est le régime, quel qu'il soit de droite ou de gauche, mais c'est aussi la très grande majorité de la population juive. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu les deux guerres en Irak, que ce soit la première en 90 ou la deuxième en 2003, tous les sondages montraient qu'il y a un seul endroit au monde où la majorité de la population favorable à la guerre en Irak, les deux fois, où cette majorité a été plus importante qu'aux États-Unis même, alors que c'était une guerre américaine. Eh bien, cet État, c'est Israël. C'est-à-dire que ce que savent les Américains, c'est que non seulement le régime, mais la société israélienne, dans son environnement moyen-oriental, ne la lâchera, n'abandonnera jamais le côté américain. Avec les pays arabes, on ne sait pas. il peut y avoir une révolution. Le régime peut tomber. Il peut y avoir un régime hostile aux Américains qui prend le pouvoir, qu'il soit islamiste ou qu'il soit nationaliste d'ailleurs, mais qui soit hostile au pouvoir, aux Américains. Et c'est ça la grande différence entre le lien qui unit les États-Unis à Israël et le lien qui les unit à ses alliés. Mais avec ses alliés, on ne sait jamais ce qui peut advenir. Avec Israël, on a une garantie. Ça, avec Israël, Israël sera toujours de notre côté.
Malgré ça, les pays arabes leur fournissent pas mal de pétrole.
Non, mais historiquement, l'Arabie Saoudite a été un allié fiable. Mais ce que j'explique, c'est que c'est le régime qui est fiable. Mais on ne sait pas si demain il ne peut pas y avoir une révolution en Arabie Saoudite, en Égypte, enfin dans d'autres pays arabes. Ça peut advenir. C'est-à-dire que des régimes hostiles aux États-Unis peuvent prendre le pouvoir. Alors qu'on sait qu'en Israël, dans les conditions telles qu'elles existent depuis un siècle, ça n'adviendra pas.
Justement, ce soutien américain a-t-il été constant ou a-t-il évolué historiquement ?
Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais si vous voulez, il y a le soutien américain tel qu'il est actuellement, il date de la guerre de 67. C'est la guerre de 67 qui vraiment produit une bascule, qui produit d'ailleurs même la communauté juive américaine n'était pas aussi favorable au sionisme avant 67. Et la critique du sionisme était une critique. Il y avait des mouvements juifs aux États-Unis, d'ailleurs pas seulement aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, qui étaient assez hostiles et ils étaient assez divers. Il y avait des gens à l'extrême gauche, mais il y avait aussi des religieux, enfin, etc., qui étaient hostiles à la création de l'État d'Israël et au sionisme comme politique pour les juifs. La bascule, c'est 67. Et en 67, Israël a vraiment réussi à convaincre les populations juives qu'ils étaient menacés d'extermination et que Israël pouvait disparaître dans cette guerre. On a appris depuis que les Israéliens, en particulier leurs généraux, étaient absolument d'une confiance absolue, ils n'avaient aucune crainte sur leur capacité à gagner cette guerre. Et d'ailleurs, ils l'ont gagnée, comme vous le savez, en une heure. C'est-à-dire que on l'appelle la guerre des six jours, mais ça a été la guerre d'une heure. En une heure, ils avaient totalement éradiqué, écrasé l'aviation à la fois égyptienne et syrienne, et donc ça a été la guerre a été finie au bout d'une heure, et le reste a été que de la conquête.
Si je résume, donc depuis 67, le gouvernement américain est inconditionnellement derrière les.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, c'était les démocrates qui étaient le parti d'Israël, mais ça l'était parce que en Israël, c'était plutôt des gens qui s'intitulaient socialistes.
Travaillistes, oui.
Travaillistes, voilà, au gouvernement. Et en fait, progressivement, il y a eu une bascule. Et on l'a vu. Et les Israéliens, la politique menée par Israël, il y a eu, depuis une vingtaine d'années, je dirais, il y a eu une distanciation des Juifs américains vis-à-vis de la politique qui était menée par Israël. Et Israël s'est de plus en plus rapproché de la droite et de l'extrême droite américaine. Et aujourd'hui, le soutien très clair n'est plus un soutien démocrate, c'est un soutien républicain. Et ça va d'ailleurs assez loin, parce qu'on peut rappeler que Netanyahou avait publiquement, vraiment publiquement humilié Obama, en passant devant le Congrès sans l'avoir prévenu, enfin genre. Et il avait humilié Obama sur le territoire américain quand il était venu à une occasion. Et là, aujourd'hui, il commence à y avoir des fortes tensions entre Biden et Netanyahou. Biden a insisté pour revenir à une négociation sur le thème des deux États, etc. Et la réponse de Netanyahou qu'il a envoyée et qu'il a rendue publique tout de suite, le lendemain, et qu'il a rendu était une réponse extrêmement cinglante, et où il a dit jamais Israël ne reconnaîtra aucune autre souveraineté que sa souveraineté entre la mer et le Jourdain. Et donc il a clairement dit il n'y aura jamais d'État palestinien. Et ça, c'est ça qui le rapproche de Trump et c'est ça qui le rapproche des républicains et surtout des suprémacistes blancs aux États-Unis, des évangélistes, des nationalistes les plus durs.
Oui, Sylvain Sipel, quels sont les plus grands soutiens du sionisme aux États-Unis aujourd'hui?
Ah ben c'est clair, c'est ce que je viens de dire. Vraiment, ceux qui sont ouvertement, ceux qui soutiennent l'expulsion des Palestiniens, une nouvelle expulsion des Palestiniens, par exemple, ceux qui l'accepteraient, ce sont la droite dure nationaliste que représente Trump, et leurs alliés qui sont aujourd'hui les évangélistes. Les évangélistes sont aujourd'hui, pour divers motifs, des alliés extrêmement proches du régime israélien, de tel qu'il est aujourd'hui.
Juliana.
Rojo. V7.
Unis pour la paix.
Que tu fasses qui pour Ramadan ou Carême, tourné vers la Mecque, Rome ou Jérusalem, que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre et on est tous ses enfants. Je lance un appel à tous les fils d'Abraham, à ceux qui disent shalom, à ceux qui disent salam, à ceux qui prient le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je le crie haut et fort, le Christ était juif lui aussi.
Dans les saintes écritures, dans les saints sacrements, dans la Bible nouvelle, dans l'Ancien Testament, depuis Mathusalem, depuis la nuit des temps, le monde et tous les prophètes sont restés impuissants, les prières de l'Orient jusqu'aux rives de l'Occident, des paroles d'évangile aux écrits du Coran, du haut des synagogues, des mosquées, des églises. Je dis que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise.
C'est pas la religion, on les prie en otage, on doit payer la rançon. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes. Qui sème le tourment récoltera la haine.
Ne fais bien la paix qu'avec ses adversaires. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier. À ceux qui prient Hachem, Jésus ou Allah, même à ceux qui ne prient personne, à ceux qui n'y croient pas.
Des croisades inutiles à la force de l'épée. Il est temps de s'unir, on y est condamné.
Ave,
salam, shalom.
On sait comment les guerres sont instrumentalisées par les religions. Et le conflit israélo-palestinien n'échappe pas à la règle. Avec leur chanson « Ave Maria Salam Shalom », le groupe Passy 65 cherche bien sûr à réconcilier les peuples. Mais on peut penser que les chansons ne suffiront pas à ramener la paix dans le monde. Alors le journaliste Sylvain Sipel s'entretient avec un autre journaliste du site d'information Mizan, sur l'influence justement des religieux qui attisent les guerres.
Alors pour synthétiser un petit peu, donc la population évangélique qui a un très gros pouvoir aujourd'hui aux États-Unis représente des dizaines de millions de personnes. Donc cette pensée, dirais-je, religieuse et philosophique soutient Israël pour que le Messie revienne. Donc leur intérêt c'est que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël pour que le Messie revienne et puis par la suite que les Juifs soient convertis, c'est ça?
À peu près, oui, c'est à peu près ça. Une fois, j'avais fait un reportage, c'était en 2002, et j'avais accompagné des représentants, la présidente et les représentants d'une organisation évangéliste très importante, sans doute peut-être même la plus importante sur le plan politique à l'époque, qui s'appelle la Christian Coalition of America. Et en fait, ils faisaient un voyage en Israël, mais en vérité, ils n'avaient quasiment jamais mis les pieds en Israël. Ils n'avaient passé leur temps que dans les territoires palestiniens occupés. Et ils allaient voir les colons. C'est tout ce qui et les rabbins hyper religieux et hyper nationalistes. C'est tout. Ce sont les seules personnes qu'ils ont vues dans ce voyage en Israël. Et donc, à la fin, j'avais d'abord interrogé la femme qui était à la tête de cette délégation évangélique. Et alors, je lui avais dit, mais vous croyez au retour de Jésus? Elle m'avait dit oui. Et donc, je lui avais dit, qu'est-ce qui va se passer avec les Juifs quand Jésus reviendra sur Terre? Elle avait dit, ils verront bien que Jésus était le Messie. Et j'ai dit, d'accord. Et alors, ceux qui voudraient pas reconnaître que Jésus était le Messie? Elle m'a dit, alors là, ceux-là, évidemment, ce sera l'enfer. Bon, très bien. Et après, j'avais été voir le rabbin qui était leur grand copain. Et donc, je lui avais dit, pourquoi vous êtes maintenant copain avec les chrétiens, etc. Donc, il m'avait expliqué tout ça. Et à la fin, je lui avais dit, mais je voudrais comprendre quelque chose. Vous êtes rabbin. Vous croyez à la venue du Messie. Il m'a dit, bien entendu. Et alors, qu'est-ce qui se passera avec tous ces chrétiens quand le Messie sera revenu? Il m'a dit, ils verront que Jésus était un faux Messie et ils comprendront que le vrai Messie est arrivé. J'ai dit, parfait. Et alors, qu'est-ce qui se passera avec les chrétiens qui ne voudront pas accepter cette idée? M'a-t-il dit ça, vous comprenez? La guerre, l'enfer, etc. Bon, en deux mots, ils sont des grands alliés et chacun pense, à la fin de l'histoire, c'est moi qui gagne. Bon, je voulais pas être plus grossier. Hein, à la fin, c'est moi qui te berne.
Donc là, on a présenté les évangélistes aux États-Unis, les républicains, donc l'élection 2024. On n'a pas parlé de l'AIPAC, par exemple, de ces organisations dites juives qui soutiennent le sionisme inconditionnellement.
Alors, aux États-Unis, l'AIPAC n'est pas d'abord, c'est un lobby. Et aux États-Unis, l'idée de lobby, c'est pas du tout comme en France. En France, quand on dit lobby, c'est péjoratif. Aux États-Unis, quand on dit lobby, c'est légitime. C'est un groupe de défense d'intérêts. Et quand vous allez sur le site de l'AIPAC, il n'y a pas marqué le lobby juif. Il y a marqué le lobby américain pro-israélien. Alors, et bien évidemment, beaucoup de juifs y adhèrent, mais aussi des évangélistes et toutes sortes d'autres gens, d'autres personnes qui sont des soutiens d'Israël. Alors, d'un autre côté, il y a une institution qui s'appelle la Conférence des présidents et qui représente la population juive qui vit aux États-Unis, les Juifs américains.
Peut-on comparer ça au CRIF en France?
Alors, c'est un gros problème, parce qu'en France, il y a une seule organisation. C'est-à-dire, c'est la même organisation qui dit représenter les Juifs et en même temps qui est banalement un organe de l'ambassade, c'est-à-dire un lobby pro-israélien. C'est-à-dire qu'en France, le problème, c'est que il y a une seule organisation qui est à la fois la représentation des Juifs de France et à la fois un lobby déclaré en faveur d'Israël. Alors, je dis pas qu'aux États-Unis, il peut pas y avoir des passerelles entre ces deux organisations, mais tout de même, c'est très important. Il y a une différence. Il y a ceux qui participent à un lobby qui sont identifiés comme des soutiens à Israël. Et il y a ceux qui représentent les Juifs américains en tant que Juifs américains et qui défendent les intérêts des Juifs américains. C'est-à-dire que ça permet une possibilité qu'il y ait un désaccord entre les deux. Et d'ailleurs, il y en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que AIPAC, qui pendant très très longtemps a eu pour politique de soutenir le gouvernement israélien, quel que soit ce gouvernement, eh bien, AIPAC a évolué. Et aujourd'hui, AIPAC est totalement lié à la frange pro-trumpiste. Et c'est une des raisons pour lesquelles de plus en plus de démocrates s'éloignent d'AIPAC, parce qu'ils disent « mais ils ne nous représentent plus ». Nous, on est des gentils sionistes, on est pour le bon Israël, on n'est pas pour l'Israël tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'il agit, et on n'est certainement pas pour Trump, alors que eux sont les meilleurs copains de Trump. Donc, c'est très important cette évolution, parce que ça amène toute une partie du judaïsme américain à commencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'AIPAC, et plus que ça, à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'Israël. Et vous avez, il y a eu un sondage, par exemple, il y a à peu près un peu plus d'un an, qui est fait par une organisation démocrate. Et le sondage disait que chez les moins de 35 ans, parmi les juifs de moins de 35 ans, 25%, c'est-à-dire un quart de ces juifs, disent qu'Israël est devenu un état d'apartheid. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est-à-dire que quand on commence à remettre en question le sionisme, et on le fait à partir de ce qu'on voit, de ce qui se passe. C'est la question coloniale qui amène toute cette jeunesse à dire ça suffit. Ça suffit. Et à ne plus pouvoir s'identifier avec Israël.
J'aurais une question là-dessus. On va l'aborder dans très peu de minutes.
Parlez un peu plus fort, je vous entends moins bien.
Oui, excusez-moi. Je vous disais, je vais l'aborder dans quelques minutes, la question de différentes tendances au sein de la communauté juive américaine.
D'accord.
Mais d'abord, j'aimerais comprendre, l'AIPAC représente combien de personnes et comment se matérialise son lobbying?
Alors, bon, il faut savoir comment, c'est quoi le fonction... C'est difficile à comprendre en France, parce qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les lobbies américains. Mais un lobby, ce qui est important... c'est les sommes qu'il est capable de recevoir et de distribuer. Le lobby, c'est quelqu'un qui ramasse de l'argent et qui le redistribue ensuite pour diverses causes. Ben, une des principales, c'est de faire élire des candidats. Donc, par exemple, aux dernières élections, celles qu'on appelle de midterm, c'est-à-dire de au milieu
moitié du mandat.
Mandat présidentiel. Ils ont systématiquement soutenu des élus trumpistes, y compris contre des républicains non trumpistes et des démocrates. Ils l'ont fait, AIPAC. Et donc, c'est un exemple. Avant, AIPAC distribuait sa manne financière à des gens qui voulaient se faire élire, à peu près de manière équivalente entre les républicains et les démocrates. Aujourd'hui, parce que ce qu'il faut, c'est certifier que ces gens, une fois qu'ils seront élus, eh bien, ils feront la politique qu'on attend d'eux. Parce que, comme ils veulent se faire réélire plus tard, ils auront toujours besoin de l'argent d'AIPAC et d'autres lobbies. Et donc, ils sont au service de ces lobbies.
Ce lobby alors, AIPAC...
C'est pas tellement important de savoir combien ils sont. Ce qui est important, c'est de savoir combien ils parviennent à amasser sur le plan financier.
Ben, ça se compte en milliards, c'est ça?
Ah oui, ça se chiffre en milliards annuels, c'est sûr, ça se chiffre en milliards annuels. Alors, il y a des lobbies industriels, par exemple Boeing, ou le lobby de l'aéronautique, effectivement, est un lobby hyper puissant. Le lobby des banques, le lobby de la finance, est un lobby, à mon avis, beaucoup plus puissant encore en termes de possession financière que ne peut l'être AIPAC.
Lobby des armes aussi, peut-être.
Gros lobby et le lobby. Alors, ce que font les lobbies essentiellement, c'est d'intervenir au Congrès pour obtenir des décisions du Congrès, des lois, et pas seulement des lois, mais qui soient favorables à leurs clients. Donc, le lobby chinois, il va travailler pour les intérêts de la Chine au Congrès. Il est inscrit au Congrès et il va travailler pour les intérêts de la Chine. Il peut y avoir un lobby russe. En ce moment, il doit avoir des difficultés, mais il y en a peut-être un. Il y en a certainement un, et il y a un lobby israélien, il y a un lobby de toutes, il y a des lobbies de toutes sortes. Il y a des lobbies pour les entreprises, il y a des lobbies pour les banques, bon, etc.
Y a-t-il plusieurs lobbies israéliens comme l'AIPAC, comparables à l'AIPAC?
Je ne sais pas dans quelle position se situe l'AIPAC si on prend pour critère la capacité de mobiliser des fonds. Je ne sais pas en quelle position est l'AIPAC. Est-ce que c'est le cinquième, le septième, le neuvième? Mais il est indubitable qu'il figure parmi les lobbies les plus riches. C'est indubitable. Mais par exemple, il y a le lobby spécifique des évangélistes. Je ne sais pas lequel des deux. A priori, je pourrais penser que le lobby des évangélistes est encore plus important, par exemple, que le lobby de l'AIPAC. L'AIPAC réunit tous ceux qui soutiennent Israël. Mais les évangélistes aux États-Unis, c'est près de 50 millions de personnes.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un chant soufi qui s'intitule « Pour la paix », interprété en arabe et en yiddish par la musicienne Linda Honoré du groupe Sonsouza. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous écoutons l'entretien avec le journaliste Sylvain Sipel et le journaliste de la chaîne d'info Mizan au sujet de l'influence des réseaux pro-israéliens aux États-Unis.
Pour parler justement des leviers de la puissance de l'influence du lobby pro-israélien aux États-Unis, on présentait donc les financements de campagne. Y a-t-il une censure de la presse? Y a-t-il un pouvoir important au niveau des chaînes de télé, au niveau d'Hollywood?
C'est quoi votre question? Est-ce que c'est l'AIPAC qui intervient? C'est ça?
L'AIPAC ou d'autres organisations,
oui,
d'autres personnalités qui vont...
Oui, ça c'est la politique, oui, bien entendu. Par exemple, je vous donne juste un exemple. La grande organisation qui organise les musulmans aux États-Unis s'appelle CARE. C-A-R-E. Et elle fait toujours, je me souviens plus du nom de la ville, mais ils font annuellement leur grand congrès annuel... le congrès de la, enfin c'est une grande association qui regroupe les, qui représente les musulmans sur le plan politique aux États-Unis. Et donc c'est l'équivalent de la conférence des présidents dont je parlais pour les juifs. Bon. Et donc ils ont, ça fait des années et des années, ça fait peut-être 30 ans qu'ils font leur réunion dans un hôtel. Et vous allez me pardonner, mais j'ai oublié le nom. C'est une ville moyenne de Virginie. Donc c'est pas loin de Washington, c'est à côté de Washington. Cette année, une organisation juive, la guerre avait commencé à Gaza, une organisation juive qui s'appelle Zionist Organization of America, c'est-à-dire l'organisation juive américaine, mais qui n'est pas, comme on pourrait croire, l'organisation fêtière de toutes les organisations juives américaines pro-israéliennes, c'est juste le nom d'une organisation et elle est d'extrême droite, mais d'extrême droite radicale. Elle est encore plus extrême droite que ne l'est Netanyahou. Elle soutient l'extrême droite actuelle israélienne. Eh bien, ils ont mené une campagne en disant que CARE, c'est le Hamas. C'est l'équivalent du Hamas sur le territoire américain. Eh bien, ils ont eu gain de cause. C'est-à-dire que l'hôtel qui accueille depuis des années ou des décennies qui accueille cette association musulmane leur a annoncé que cette année, ils ne pourraient pas venir. Donc, ça montre quand même une capacité d'intervention de faire peur aux gens, de les menacer, de ce qui leur arriverait, des accusations qui seraient portées contre eux, etc., etc. Donc, on ne peut pas nier que, effectivement, les milieux juifs, et en particulier les milieux juifs d'extrême droite, qui sont minoritaires aux États-Unis, mais de plus en plus influents, et il y a beaucoup de gens autour de Trump, de ces milieux-là, beaucoup, qui adhèrent, et pour qui la relation qu'entretenait Trump et Netanyahou était formidable et c'était inespéré. Cette frange-là du sionisme américain est très, très active, très, très active dans la tentative de... Alors, on l'a vu ce qui s'est passé également dans les campus américains, où il y a eu des interventions très puissantes pour interdire de parole... toute parole qui serait favorable à la cause palestinienne et critique de ce que font les Israéliens durant cette guerre. Il faut bien dire que sur les campus, aujourd'hui, ça a été une défaite en rase campagne. Alors, il y a eu deux présidentes d'universités, celle d'Harvard et celle de Philadelphie, je crois. Oui, c'est Penn. Donc de Pennsylvanie, l'université de Pennsylvanie, les deux ont été obligés de démissionner. Mais sinon, la campagne qui a essayé d'arrêter la critique d'Israël a totalement échoué sur les campus américains. Alors là, au contraire, plus la campagne a pris de dimension et plus la manifestation d'hostilité à ce que Israël fait à Gaza et monter sur les campus.
Donc dans les nouvelles générations, le rapport de force s'inverse.
Est en train de s'inverser, indubitablement. Et c'est pas seulement vrai, c'est vrai dans la population juive. Comme je l'ai dit, il y a une distanciation, elle concerne beaucoup la jeunesse, mais quand même pas seulement la jeunesse. Il y a beaucoup de juifs américains qui disent, mais cette fusion qui existe entre les juifs israéliens et Trump, c'est insupportable pour eux. C'est inadmissible. Moi, j'ai rencontré des juifs américains qui disent, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et alors, chez les jeunes, c'est beaucoup plus fort. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe, pas parmi les jeunes juifs américains, mais ce qui se passe dans la jeunesse américaine de gauche, donc la gauche américaine chez les démocrates. Alors on peut aimer ou ne pas aimer cette gauche-là, mais c'est la gauche américaine. Et à l'intérieur de la gauche américaine, dans les moins de 35 ans, c'est évident qu'il y a une critique d'Israël qui est de plus en plus importante. Il y a vraiment eu des manifestations très puissantes d'hostilité à la politique menée par Biden à l'intérieur du Parti démocrate et en particulier dans les organisations pro-démocrates qui réunissent la jeunesse. Ça, c'est indubitable. Historiquement, la communauté juive américaine est une communauté qui a été moins sioniste que les juifs européens. Et donc, bon, je rappelle que le sionisme américain, le soutien à Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui, commence vraiment après 67. Il ne commence pas dès la création d'Israël.
Les juifs ont principalement immigré aux États-Unis au début du siècle, provenant de Russie, c'est bien ça?
Oui, ils sont arrivés aux États-Unis entre à partir de 1880 et jusqu'à 1923. Je dis 1923 parce que en 23 il y a eu une loi extrêmement une loi migratoire aux États-Unis qui a été pas contre les juifs mais qui était contre tous les immigrés, mais ça a inclus les juifs parmi les immigrés et ça a été une loi migratoire extrêmement draconienne qui a tenu jusqu'en 1965 et qui a terriblement minoré le nombre des personnes autorisées à s'installer aux États-Unis.
Aujourd'hui, ça représente combien de personnes?
La population juive américaine?
Oui.
À peu près 6,5 millions, ça fait à peu près 2% de la population américaine. Les musulmans sont à peu près 1%, mais ils croissent beaucoup plus vite que les juifs. Et les musulmans qui sont aux États-Unis sont pas venus, enfin, pour l'essentiel, viennent de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde. Des Philippins musulmans, des Indonésiens, etc. Et beaucoup moins du monde arabe, c'est-à-dire beaucoup moins d'Afrique du Nord et du Mashrek, de l'Égypte ou du Yémen. Mais il y a quand même de plus en plus de Yéménites et de plus en plus d'Égyptiens. Mais l'essentiel du monde musulman américain est constitué d'émigrés qui sont asiatiques.
Et donc la communauté juive, la plupart sont des émigrés.
À 95%, ce sont des immigrés et des enfants et petits-petits-petits-enfants d'immigrés depuis la fin du 19e siècle.
Très bien. Donc il y en a autant aux États-Unis que dans l'État israélien.
C'est ça. Il y a à peu près un nombre équivalent de juifs américains. D'ailleurs, c'est un judaïsme qui est immensément plus fort que le judaïsme français. C'est un judaïsme qui, d'abord, je vais prendre quelques domaines, mais par exemple, dans le domaine universitaire, il y a immensément plus, alors c'est dû au fait que les États-Unis sont beaucoup plus vastes, qu'il y a immensément plus d'universités qu'il n'y en a en Israël. Mais vous avez aux États-Unis peut-être cinq fois plus d'universités qui disposent de départements d'études juives qu'il n'y en a en Israël. Et, parenthèse, l'enseignement qui y est fait n'est pas le même, n'est idéologiquement pas le même que celui qui est fait en Israël. C'est un enseignement qui rappelle ce qu'a été la vie des Juifs pendant 2000 ans, qui a été une vie avec beaucoup de malheurs, mais qui a eu aussi des phases très glorieuses, formidables, etc. Alors que dans la version sioniste de l'histoire juive, il y a une histoire jusqu'à la fin du Deuxième Temple, et l'histoire s'arrête, il n'y a plus d'histoire, et reprend avec le sionisme, c'est-à-dire un mouvement politique qui veut rebâtir un État. Et au milieu, il y a 2000 ans de zéro, de rien. Pour en venir à votre question, donc, le lien au sionisme a été un lien qui a été moins fort avant 67, mais qui s'est très fortement renforcé après 67. Aujourd'hui, je dirais qu'il est, il reste majoritaire dans le judaïsme américain. Et en même temps, il y a alors il y a les deux tendances qui montent fortement sont les deux extrêmes. C'est-à-dire que il y a une tendance qui non seulement soutient Israël, mais qui soutient cet Israël-là. C'est-à-dire, pas un Israël imaginaire, mais l'Israël tel qu'il se comporte. C'est-à-dire un Israël raciste, xénophobe, un Israël qui pratique un apartheid. Et ils sont à fond derrière. C'est ceux qui soutiennent Trump. Et ils sont quand même de plus en plus nombreux à l'intérieur du Parti républicain. Et c'est une fraction du judaïsme américain qui monte de manière importante. De l'autre côté, vous avez aussi une jeunesse juive qui est de plus en plus... Il y a deux tendances dans cette jeunesse-là. Il y a une tendance qui est politique, politisée. Bon, pour résumer, ils ont pas mal d'organisations, c'est surtout sur les campus, et c'est eux qui fournissent un nombre, à peu près la moitié des militants de BDS. Vous voyez ce que c'est BDS ?
Oui.
D'accord.
Boycott, désinvestissement, sanctions.
Sanctions. En fait, le seul endroit au monde où ce mouvement a une certaine importance, ce sont les campus américains. Et là, il est indubitable que la moitié des membres de BDS, ce sont essentiellement des Palestiniens ou bien des Arabes qui ne le sont pas, et parfois des musulmans qui ne sont pas palestiniens. Mais l'autre moitié, ce sont des juifs américains. Ce sont des jeunes juifs américains. Et c'est vraiment très intéressant de voir que comment ce mouvement peut exister et se battre. Et surtout, il y a eu une campagne alimentée par des fonds très importants. 100 millions de dollars, c'est pas rien. Le gouvernement israélien a débloqué 100 millions de dollars uniquement pour batailler contre BDS sur les campus. Et ils ont échoué. Et ils ont échoué pour un motif qui est assez simple. À chaque fois qu'ils engagent une bataille politique, idéologique contre l'antisionisme, eh bien, ils la perdent. Sur les campus, ils la perdent. Au point qu'il y avait des politiciens israéliens qui disaient il faut arrêter de foutre du fric là-dedans, parce que au lieu de défendre Israël, on ne fait que augmenter le nombre de gens qui sont contre nous. Et alors, il y a une autre tendance qui me semble, dont on parle très peu, mais qui est une tendance qui, à mes yeux, est très importante. C'est une tendance qu'on appelle, en anglais, diaspora revival, c'est-à-dire le renouveau diasporique. C'est-à-dire des juifs, des jeunes, en général jeunes, mais pas seulement, qui disent « mais moi je suis juif américain, moi j'ai pas de rapport avec Israël ». Je vous donne un exemple, moi j'ai eu quand j'étais correspondant du Monde, j'étais aux États-Unis, j'ai eu un problème de genou, j'allais chez le kiné. C'était un jeune juif de Brooklyn, un mec de 35 ans, il avait des enfants en bas âge. Bon, quand il a compris que j'étais juif, on s'est mis à, il voulait, et j'étais journaliste, il voulait me poser plein de questions, etc. Et un jour, on discutait. Et moi, je lui ai demandé, est-ce que vous avez déjà été en Israël? Il m'a dit qu'il y avait été une fois, il avait 18 ans, ça lui avait pas tellement plu, mais, et puis il m'a dit, mais, je vais vous dire. Moi, quand les gens me demandent, quand je dis aux gens que je suis juif, ils me disent, ah, t'es juif? Qu'est-ce que tu penses d'Israël? Mais j'en pense rien. Et je m'en fous. Pourquoi ? On me demande pas qu'est-ce que je pense. Il m'a dit de l'Uruguay ou ce que je pense de la Norvège. J'en sais rien. J'en pense. Je m'en fous. Ben c'est pareil pour Israël. Pourquoi ? Parce que je suis juif, je dois penser quelque chose d'Israël. Et c'était la première fois que je me rendais compte d'un phénomène que j'ai pu constater ensuite, c'est-à-dire que il y a toute une frange du judaïsme américain qui dit « j'en ai jusque-là d'Israël ». Moi, je suis juif américain, je ne suis pas israélien. Et plus les Israéliens se comportent comme ils se comportent aujourd'hui, et plus ce groupe augmente. Ce n'est pas un groupe politique. C'est un groupe qui dit, d'ailleurs, je me rappelle ce kiné, il m'avait dit, mais moi j'ai des enfants en bas âge, mais moi je veux qu'ils apprennent la Bible, je veux qu'ils apprennent la Torah, qu'ils soient éduqués comme des jeunes juifs, mais Israël ne me représente pas. Moi je n'ai rien à voir avec Israël. Et je ne veux surtout pas avoir quelques liens avec Israël. Cette tendance-là, elle est très importante. Pourquoi ? Elle est importante parce que, je vais vous donner un exemple, parce qu'Israël a l'intention, enfin, le sionisme, fondamentalement, a pour ambition de représenter tous les juifs, partout, où qu'ils soient. Les juifs et Israël, c'est la même chose. Et de ce point de vue-là, cette mouvance qu'ils développent, qui se développe aux États-Unis, de renouveau diasporique, est extrêmement dangereuse pour le sionisme. Parce que c'est une tendance qui dit « Je suis ni sioniste, ni anti-sioniste, ni assioniste, je me fous d'Israël. Mon pays, ça s'appelle les États-Unis. » Ça, c'est une menace, à mon avis, encore plus grave. Parce que ça menace la revendication israélienne. Vous savez, par exemple, que Israël, dans la loi israélienne, n'est pas seulement la capitale de l'État d'Israël. Elle n'est pas reconnue par le reste du monde, mais c'est une autre affaire. Mais Israël, dans la loi, n'est pas seulement la capitale. Jérusalem n'est pas seulement la capitale d'Israël. Ce qui est écrit, c'est qu'elle est aussi la capitale...
Éternelle.
Éternelle, voilà. La capitale éternelle du peuple juif. Ça veut dire que si vous êtes un juif français, américain, costaricain, norvégien, c'est aussi votre capitale. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça que disent les jeunes Américains. Ils disent non, moi je suis pas... Jérusalem ne me représente pas. C'est pas ma capitale. La capitale, c'est Washington. Et ça, c'est quelque chose, ça mine de rien, à mes yeux, ça peut être un élément qui peut briser le lien entre les Juifs et Israël, beaucoup plus fort que l'opposition politique. Moi, je suis dans la... je me situe dans l'opposition politique. Mais je pense que c'est cette autre mouvance qui pose un danger encore plus important au sionisme aujourd'hui.
On l'a vu, donc, historiquement, il y a aussi eu des tendances religieuses, des rabbins qui s'opposent au sionisme. Oui. Qu'en est-il actuellement ?
Alors, il y a deux choses. Il y a eu des rabbins. En particulier, il y avait une secte rabbinique qui s'appelle Satmer, qui était très, très, très hostile au sionisme jusqu'aux années 80-90. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Et aujourd'hui, vous avez un mouvement, par exemple, qui historiquement, le mouvement Chabad, le mouvement des Lubavitch, qui historiquement était très antisioniste. Le fondateur du mouvement Lubavitch était très antisioniste. Mais aujourd'hui, ils sont à fond pour le grand Israël, ils sont à fond pour virer tous les Arabes, enfin c'est terrible, terrible. Et donc, il y a eu une mouvance historique religieuse, majoritaire d'ailleurs, contre le sionisme, parmi les Juifs. Mais elle existe toujours, mais elle est beaucoup moins puissante.
D'accord.
En tout cas, elle fait affaire avec le sionisme, même quand elle se prétend pas sioniste. Elle est pour la défense d'Israël très fortement. Ça, c'est une chose. Il y a un truc beaucoup plus important qui est que les Juifs américains ont inventé une religion qui leur appartient. Et où il y a très peu d'adhérents en dehors des États-Unis. Il y en a un peu en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Mais la plupart, et ils sont les majoritaires aux États-Unis. Et ça s'appelle le judaïsme réformé. C'est un judaïsme plus moderne. Par exemple, les prières peuvent être faites en anglais et pas en hébreu. C'est un peu si vous voyez la comparaison, le Vatican II à l'échelle du judaïsme, quoi. C'est qu'on fait plus les prières en latin, on les fait en français ou en anglais. Ben là, on les fait plus en, on les fait plus en hébreu, on les fait dans la prière, dans la langue du pays, et toute une série d'autres choses. Ils acceptent les femmes rabbins, par exemple, alors que le judaïsme historique ne peut pas les accepter. Voilà, des choses de ce type. Mais ils ont une philosophie générale, et ils développent une philosophie générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est très hostile à l'ethnicisme que représente le nationalisme israélien. Le nationalisme israélien est un pays... Enfin, l'État d'Israël est un pays, on l'a bien vu avec la loi sur l'État-nation du peuple juif, c'est un pays où ça n'est pas la citoyenneté qui constitue la vraie adhésion à la nation, c'est l'ethnicité. Quand vous êtes de l'ethnie juive, vous êtes un citoyen, vous avez des droits, et si vous n'êtes pas juif, eh ben vous avez non pas de droits, mais moins de droits. Et ça, c'est fondamental, et c'est quelque chose qui est inadmissible aux yeux des juifs américains de tendance réformée, qui sont très majoritaires. Ils essayent de construire quelque chose en Israël, et le rabbinat israélien est radicalement hostile. Certains des rabbins israéliens disent simplement qu'ils sont même pas juifs et que c'est inadmissible d'accepter par exemple les hommes ou les femmes qui se convertissent au judaïsme aux États-Unis ne sont pas acceptés par le rabbinat israélien. Il faut passer devant un rabbin israélien parce que ils savent que aux États-Unis c'est beaucoup plus simple de devenir juif ou musulman ou quoi qu'on voilà. Ou chrétien quand on est juif, ou de changer de religion, c'est très simple aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, en Israël, pour devenir juif, c'est long, c'est compliqué, etc. Donc, et ça, c'est une mouvance quand même sur le plan religieux qui produit, par exemple, les rabbins de Troyes. Alors là, avec les événements de Gaza, les rabbins de Troyes, ils ont été très ébranlés. Mais quand même, Ils ont beaucoup de, enfin, jusque très récemment, ils avaient des liens très, très nombreux avec des imams aux États-Unis. Quand Trump, par exemple, vous vous rappelez que il avait pris sa première décision à Trump a été d'interdire aux ressortissants de 11 pays arabes, puis de 7 pays arabes, l'entrée sur le territoire américain. Vous vous rappelez de ça dès qu'il a été élu en 2016. C'est ça qu'il a fait, en 2017, quand il est rentré à la Maison-Blanche. Eh bien, il y avait des collectivités, enfin des groupes de rabbins et d'imams qui allaient ensemble sur les aéroports pour aider les gens à pouvoir rentrer sur le territoire. Il y avait plein d'étudiants qui revenaient de Jordanie, d'Égypte, de tous les pays arabes interdits et qui ne pouvaient plus rentrer alors qu'ils avaient tous les papiers pour pouvoir rentrer sur le territoire américain. Et donc ils intervenaient ensemble. Et ça, c'est quelque chose de totalement impensable du côté des organisations sionistes, quoi.
Samit nafnefet letzilei hachoma Bain al-ard wa-sama Nasik tir ba'ishu sama Matkhafu السلام والأمان متى يفسو خمات بخر وشعبتي ميقالوتي يبتخو
Vous venez d'entendre la chanson intitulée « La prière des mères », interprétée par l'artiste israélienne Yael Dekelbaum. On peut résumer d'ailleurs le contenu de cette chanson à peu près de la façon suivante. « La vraie paix s'obtient rarement par les armes. Pour un monde sans guerre ni conflit, on n'a rien inventé de mieux que le respect, l'amour et la tolérance. » Alors, forte de ce constat irréfutable en Israël, 3000 femmes de confession confondues ont décidé d'unir leurs forces dans un combat pour la paix en Israël et en Palestine. Et nous reprenons maintenant l'entretien entre le journaliste Sylvain Sipel et un journaliste de la chaîne d'info Mizan au sujet de l'influence des réseaux pro-israéliens aux États-Unis.
Parce que la tradition américaine, c'est que l'intégration se fait aussi sur le plan politique, c'est-à-dire que les enfants et les petits-enfants sont les enfants d'immigrés, mais souvent ils deviennent américains. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre, c'est que j'ai pas mal travaillé sur la question migratoire quand j'ai été correspondant, et j'avais fait plusieurs reportages en Arizona, et j'ai rencontré... L'Arizona, c'est un des États où la proportion des Latinos est la plus importante. Les Latinos, ce sont les gens qui arrivent d'Amérique centrale. C'est ceux-là qu'on appelle les Latinos. Mexique et tous les autres États, Guatemala, Nicaragua, etc. Et j'ai rencontré c'était terrible. J'ai rencontré des Latinos qui avaient 60, 70 ans et qui me disaient, ah non, mais il faut arrêter l'immigration, ça va pas, hein. Parce que nous, à notre époque, on a été bien accueillis parce qu'on était des gens bien, etc. Les nouveaux latinos qui arrivent, mais c'est des voyous, hein. Et puis culturellement ça va pas, hein, c'est pas possible. C'était sidérant. Ils parlaient comme les blancs, quoi. Et vous savez, il y a déjà 25% des latinos américains qui sont évangélistes. Ils sont évangélistes. Donc je pense que globalement, les minorités s'intègrent. La question migratoire reste, elle perdure, comme une question où, globalement, c'est la gauche américaine qui défend les droits des immigrés, et c'est la droite qui s'y oppose. Bon, c'est un raccourci rapide, mais c'est, en gros, c'est ça. Mais, sur le plan, une génération après l'autre, en fait, quand vous prenez les Juifs et les Italiens, les immigrations juives et italiennes sont celles qui ont fourni les deux plus grandes mafias du début du XXe siècle aux États-Unis. C'était chez les Juifs et chez les Italiens qu'on trouvait le plus de mafieux.
Lucky Luciano, Meyer Lansky.
Mais bien sûr, bien entendu. Or, les Juifs aujourd'hui, et les Italiens, ce sont les deux populations peut-être qui ont le plus contribué à l'art, au cinéma américain, par exemple, les uns et les autres, et pas seulement. Mais aujourd'hui, plus personne ne penserait dire « Ah, les Rital, c'est tous des voyous !» Ou les Juifs. La mafia juive new-yorkaise était très importante. La mafia italienne était très importante. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit de quelqu'un de dire il fallait pas laisser rentrer les Juifs et les Italiens parce que c'est tous des voyous? Bon, ben c'est un peu ça qui se passe aussi. La capacité d'intégration américaine est quand même très très importante. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a la bascule qui est à mes yeux inéluctable aux États-Unis, c'est la mixité. C'est-à-dire, c'est vrai que les WASP, c'est-à-dire les White Anglo-Saxon Protestants, les protestants blancs anglo-saxons, ben, petit à petit, ils se diluent dans une population où les gens se marient. La population qui augmente en proportion le plus aux États-Unis, c'est les métis. Alors, on peut être métis juif et japonais, camerounais et natif américain, WASP et indien d'origine. C'est ça que, quand je dis indien, c'est venant d'Inde, etc., etc. C'est-à-dire que les mariages mixtes, donc de gens d'origine différente, c'est ça la catégorie qui augmente le plus Ça reste la catégorie la plus faible aux États-Unis. Mais avec le temps, c'est elle qui augmente de plus en plus. Ben, la démographie va faire que, normalement, cette mixité va devenir la norme américaine. Elle l'est déjà, en partie, acceptée. Quand vous voyez une convention démocrate, par exemple, ça n'a rien à voir avec une convention républicaine. Une convention républicaine, il n'y a que des blancs. Et un ou deux noirs dispersés dans la foule. Quand vous allez à une convention, moi je l'ai fait, à une convention démocrate, il vous rabâche diversité, diversité, et effectivement, il pousse en avant les noirs, les arabes, les latinos, les jaunes, les japonais, les indonésiens, les chinois, etc., etc. Et ça, c'est un phénomène, à mon avis, qui est aujourd'hui absolument inarrêtable. Moi, je ne vais pas faire de pronostic sur le résultat de l'élection. Évidemment, Biden continue la politique qu'il a actuellement. Peut-être que ça va s'arrêter, mais je ne le crois pas trop. Il mise sur l'idée que, à la dernière seconde, même les jeunes voteront pour lui quand ils verront que sinon c'est Trump. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Je pense qu'il y a beaucoup de juifs aujourd'hui, de jeunes juifs, et pas seulement, de jeunes en général, démocrates, qui ont été écœurés par la politique qu'a menée Biden dans la guerre à Gaza. Vraiment écœurés, et qui disent, un peu comme il y a en France, des gens qui disent voilà, si c'est Attal contre Marine Le Pen, moi je n'irai pas voter. Alors, on ne sait pas combien ils vont être. Il y en aura. Mais s'il y en a autant qu'en 2016, ça peut faire perdre à nouveau Biden. Il peut perdre. On ne peut pas exclure qu'il perde. Dans les sondages actuels, il est donné perdant. Mais les sondages ne sont pas très bons parce que ce sont des sondages nationaux. Or, on sait que dans le système américain, ce qui compte, ce n'est pas le vote général, c'est le vote par État. Bon. Et donc, bon, en tout cas, on ne peut pas exclure une défaite. Enfin, une défaite de Biden ne sera pas étonnante si ça arrive. Ça peut. C'est d'abord c'est l'espoir de Netanyahou, ça c'est fondamental. Alors, Netanyahou mise tout sur une guerre très longue, sur se maintenir et essayer d'arriver à se maintenir au moins jusqu'aux élections américaines. Et si Trump est élu, eh ben c'est le jour de gloire et on sabre le champagne, voilà. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu loin parce que novembre, si ça s'arrête assez vite, Gaza, l'impact de Gaza peut petit à petit s'effacer. Si ça dure encore des mois, ça impactera plus lourdement. C'est pour ça que d'ailleurs que Biden maintenant commence à sentir qu'il faut que ça s'arrête, quoi, et à faire pression pour que ça s'arrête le plus tôt possible. Ce qui n'est pas du tout la volonté de Netanyahou, évidemment. Moi, je ne vais pas faire de pronostic sur le résultat de l'élection. Évidemment, Biden continue la politique qu'il a actuellement. Peut-être que ça va s'arrêter, mais je ne le crois pas trop. Si Trump est élu, c'est évident. Si Biden est élu, la politique continuera comme elle est maintenant. Biden va se heurter à une hostilité israélienne. Je le pense aujourd'hui totalement incapable de prendre les mesures qui permettraient de faire plier Israël. Je pense que ça n'adviendra pas, malheureusement. Mais la seule mesure, elle serait une mesure d'ordre financier. C'est-à-dire les 4,2 milliards de dollars annuels qui sont donnés. Alors, en vérité, il n'y a pas 4,2 milliards parce qu'il y a une part de remise de dette gracieuse qui est calculée. Mais peu importe, disons 3 milliards et demi de dollars tous les ans, ça fait beaucoup d'argent, hein, beaucoup, beaucoup d'argent. Et si les Américains disaient, et surtout beaucoup d'armes et de munitions, et si les Américains disaient on arrête, ça pourrait poser un problème important aux Israéliens. Donc, mais je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que Biden soit capable et en mesure de prendre cette décision. Donc Biden continuera à dire deux États, deux États, deux États, deux États, et Netanyahou continuera à dire va te faire foutre. Bon, Si c'est Trump, c'est différent. Si c'est Trump, on peut avoir une politique qui Trump n'est pas quelqu'un qui a une passion pour Israël, hein. Faut pas se leurrer. Mais il a un autre regard sur le monde. Et donc, on a vu ce qu'il a été capable de faire. Il a reconnu Jérusalem, il a reconnu l'occupation, il a reconnu les colonies, enfin voilà. Donc ça sert à rien sur le plan diplomatique international, mais il l'a fait. Il pourrait faire beaucoup plus, beaucoup plus. Et ça pourrait vraiment changer la politique américaine vis-à-vis d'Israël. Ça c'est vraiment, parce que tout de même, officiellement la politique américaine, c'est deux États. Donc, ça, il peut le casser. Il peut le casser.
Vous m'avez fait une très bonne transition tout à l'heure en parlant de Attal et Marine Le Pen. Je voulais faire une petite incise rapide sur la France, présenter un peu le lobby pro-israélien en France, français. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il en est de la communauté juive aussi dans notre pays?
La grande différence entre la... Je vous l'ai dit, la grande différence avec les États-Unis, c'est que la communauté juive française, elle est totalement... elle est, à travers le CRIF, par l'intermédiaire du CRIF, totalement affidée à la politique israélienne. Moi, je lis tous les jours, je suis abonné donc à la lettre du CRIF, je regarde ce qu'ils écrivent. Ils ne disent jamais un mot. Ils ne parlent même pas des débats qu'il y a à l'intérieur d'Israël. Il y a quand même des gens qui sont très critiques en Israël de ce que fait Netanyahou. Et ils s'en privent totalement. Enfin, ils ne le font pas. Et c'est vraiment un lobby dans la totale acceptation du terme. Il n'y a pas le début du quart du dixième d'une critique possible au CRIF. Donc, ils prennent leurs ordres à l'ambassade et puis voilà. Bon. Alors, de ce point de vue-là, je ne sais pas s'ils vont perdre... Je ne sais pas combien ils représentent le CRIF. Mon ami Dominique Vidal dit que c'est 25% des Juifs français. Je pense qu'il a tort, je pense que c'est quand même beaucoup plus. Je pense qu'il a... 25, c'est peut-être les adhérents aux organisations juives. Mais c'est pas ça seulement le CRIF. Le CRIF, c'est aussi ceux qui portent la parole des Juifs de France auxquels des Juifs adhèrent et soutiendront si besoin. Et donc, je pense que ça... Disons la moitié des Juifs de France. Disons. Voilà. Mais les autres ne sont pas organisés. Donc, de facto, ils représentent tout le monde. Les autres ne sont organisés nulle part. Il y a des minuscules associations qui sont des associations antisionistes. Mais sinon, il y a très peu d'associations qui s'organisent en dehors du CRIF. Très, très peu. Voilà. Donc, je vois pas de... Il faudrait des événements majeurs en Israël, aux États-Unis, pour que quelque chose se passe en France. Alors, en revanche, il y a des choses importantes qui se passent tout de même. Je veux dire, voir, comment il s'appelle, j'ai un trou, Meyer.
Meyer Habib.
S'embrasser quasiment sur la bouche, j'allais dire, mais s'embrasser avec Bardella, publiquement, ça dit tout. Ça dit deux choses. Aujourd'hui, parce qu'il faut savoir, c'est un homme extrêmement proche de Netanyahou. Ça veut dire que d'une part, nous, les Israéliens, la droite et l'extrême droite israélienne, nous sommes totalement en phase avec Bardella. Et ça dit aux Juifs de France, le tabou est levé. C'est fini. On peut voter pour Bardella. On peut voter pour Le Pen. C'est fini. Je ne sais pas comment ça va passer dans la communauté juive. Je pense qu'il y aura des résistances. Après, ça reste le CRIF. Donc, il y a des chances que les résistances, elles restent en petit comité et derrière des portes closes. On n'en aura jamais... on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CRIF, il dit l'ennemi c'est Mélenchon, le diable. Je ne suis pas un grand fan de Mélenchon, pour tout vous dire. Mais franchement, la campagne, il est le seul aujourd'hui, enfin, son parti, je parle pas de lui en vérité, mais il est le seul qui dit ce qui se, la réalité de ce qui se passe maintenant à Gaza. Personne d'autre n'en parle. Eh bien, le fait que ce soit le principal ennemi qui ne cesse de dénoncer le CRIF, en même temps que Bardella s'embrasse avec Meir Habib, la guerre est finie, comme disait l'autre. La guerre est finie, on n'est plus en guerre, on ne considère plus que c'est que le Pen, c'est hors champ. C'est intégré, c'est fini. C'est une manière de dire aux Juifs de France, on peut y aller.
Vous avez entendu dans l'émission d'aujourd'hui le journaliste Sylvain Sipel parler de l'influence des réseaux pro-israéliens aux États-Unis. Il serait intéressant d'avoir aussi un développement plus important sur le réseau pro-israélien en France. En France, où il semble encore plus puissant qu'aux États-Unis. Nous espérons d'ailleurs que ce sujet sera l'objet d'une prochaine émission. Je remercie maintenant le journaliste Sylvain Sipel pour son intervention et la chaîne d'info Misane sur laquelle il s'est exprimé. Je remercie également Frédéric qui assure la diffusion des émissions Civis Pacem sur Radio Libertaire chaque semaine. Et pour conclure en musique, nous allons écouter à nouveau l'artiste israélienne Yael Dekelbaum qui, à Berlin, en septembre 2023, a appelé toutes les femmes du monde à s'associer à la création du vidéoclip intitulé « La guerre, ce n'est pas un jeu pour les femmes ». La guerre, ce n'est pas un jeu pour les femmes.
Oh, Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sylvain Sipel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Vous avez longtemps travaillé à Courrier International. Encore plus longtemps, vous avez travaillé au Monde. Vous avez été son correspondant aux États-Unis de 2007 à 2013. Vous avez vécu en Israël. Vous y avez travaillé. Vous avez suivi les premières années de la seconde intifada. Et on vous invite parce que vous publiez aux éditions La Découverte, un livre qui est un livre important, qui, on l'espère, va faire débat en France, même s'il est assez difficile de débattre de ce thème. Ce livre, son titre, L'État d'Israël contre les Juifs, c'est un titre provocant, qui doit créer la discussion. Vous allez nous expliquer ça, pourquoi l'État d'Israël est aujourd'hui une menace pour les Juifs, pour la société israélienne, mais pour les Juifs du monde entier. C'est un livre important qui est le fruit de dizaines d'entretiens, de longues explorations historiques, de longs retours en arrière, qui, je dirais, exhume des textes importants, en particulier d'intellectuels juifs américains, ces 15 dernières années, sur ce qui est en train de devenir Israël. Et si on veut résumer très très rapidement, avant de lancer la discussion, le propos principal de votre livre, c'est que vous nous décrivez une longue dérive d'un État d'Israël qui est aujourd'hui devenu un État ethniciste, raciste, belliqueux, usant d'une violence totalement disproportionnée contre les Palestiniens. Vous aviez écrit, il y a une quinzaine d'années, un livre sur l'enfermement de la société israélienne. Vous nous décrivez aujourd'hui un État largement dominé par une extrême droite qui a, d'une certaine manière, gagné la bataille culturelle, gagné la bataille des valeurs. Et vous nous expliquez en quoi ce régime israélien, où finalement s'installe à petits pas ce qui peut être qualifié comme une sorte de régime d'apartheid, devient une menace pour la sécurité d'Israël, pour l'avenir de la société israélienne et pour, évidemment, toute la diaspora juive. Alors, on va détailler ça, peut-être pour commencer, c'est le premier chapitre de votre livre, pour montrer cette réalité de l'État israélien. Vous rappelez, je dirais, ce qu'est l'ordinaire, la banalité quotidienne de l'occupation israélienne. C'est quoi ?
La banalité, la question palestinienne, c'est pas un drame de type syrien, c'est pas un drame de type yéménite, comme on a vu, c'est pas des massacres massifs. La réalité, c'est une occupation qui a pour objectif de mettre à genoux les Palestiniens et, si possible, d'en faire partir le plus possible. Donc, c'est une occupation qui vise l'acquisition de la terre en priorité, de l'eau et de la propriété de manière générale, qui suit une ligne déterminée depuis fort longtemps, qui consiste à, pour capter la terre, à regrouper les Palestiniens autour des grandes villes, à créer ce que certains Israéliens d'extrême droite, par humour, appellent les Émirats unis palestiniens, c'est-à-dire des petits territoires déconnectés les uns des autres.
La cantonisation
de la société palestinienne de Cisjordanie. Et tout ça dans une vision qui est qu'un jour, tout nous appartiendra. Et ce qu'il adviendra des Palestiniens n'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est qu'au mieux, ils resteront chez eux sans droit, et au pire, ils ne resteront pas.
Mais ce que vous racontez, c'est une banalité d'une violence extrême. C'est-à-dire, c'est tous les jours des morts, c'est des humiliations continues dans les passages
c'est
au checkpoint.
C'est pas tous les jours des milliers de morts,
arrestations.
C'est un tous les jours, deux tous les jours. Ce sont des arrestations tous les jours. C'est la manière dont on entraîne les soldats israéliens, les jeunes conscrits, à participer à des opérations. Ça rappelle beaucoup la guerre d'Algérie. On rentre chez les gens en pleine nuit, à 3 heures du matin, on réveille tout le monde, on met tout le monde dans une pièce, on saccage, etc. Et puis on s'en va, il n'y a aucune explication. Des fois on prend quelqu'un, des fois on ne prend pas. On ne sait pas si la personne est arrêtée, si elle est libérée le lendemain, ou elle n'est pas libérée. Et donc on fait vivre en permanence c'est une vie de contraintes permanent. Et puis il y a les contraintes institutionnelles, il y a les contraintes physiques, C'est-à-dire que le paysan qui a son champ qui est en face de son de sa maison, mais qui doit faire tous les jours 30 km pour contourner le mur, et qui au bout d'un moment n'y va plus parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut passer un checkpoint, parce qu'on perd des heures, parce que etc. Et c'est fait exprès. Et c'est fait exprès. Alors, je raconte par exemple un cas à un checkpoint qui est absolument épouvantable, où c'était un article paru dans Haaretz d'un universitaire, je crois qu'il était australien, qui racontait qu'il a été voir des amis à Bethléem, et il veut rentrer le lendemain matin pour revenir à Jérusalem. Bethléem, c'est à 10 km, hein, 12 km. Et donc, il doit passer par le checkpoint, et donc il y a un gros checkpoint, il y a quatre passages. Il arrive, les gens attendent, aucun n'est ouvert, puis à un moment, il y en a un qui s'ouvre. Alors tout le monde court à celui qui est ouvert, ça dure 5 minutes, puis ça s'arrête, et à nouveau, il y a un ouvert, et puis ensuite il y a l'autre qui s'ouvre, et on ne sait pas lequel va s'ouvrir, on ne comprend pas la cohérence, il n'y en a pas. Mm-hmm. La seule cohérence, c'est cette incohérence, c'est de rendre dingue.
Et c'est une stratégie qui a été quand même travaillée,
oui, elle a été travaillée.
Nuri, vous dites que c'est la stratégie, c'est imposé.
Oh no, Bruno! Tiens, quand ça nous tient.
C'est parti. Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4.